France Musique.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Confiné mais relax, une émission faite à la maison face à ma bibliothèque avec quelques livres que j'aime et que j'ai envie de feuilleter avec vous. Aujourd'hui, un ouvrage dont je suis particulièrement fier, je vous dirai un peu plus tard pourquoi, la revue musicale de François-Joseph Fétis.
Thank you.
Johannes Goritzky dirigeait un extrait de cette première symphonie de George Onslow, créée à Paris en avril 1831 et dont il est question dans le volume auquel on va s'intéresser aujourd'hui. François-Joseph Fétis, c'est un personnage vraiment de premier plan pour la musique du 19e siècle. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Il a été critique, musicologue, historien, journaliste, homme d'influence, auteur d'une très imposante biographie universelle des musiciens en 8 volumes qui commence à paraître en 1835 et fit longtemps autorité. Il était belge, Fétis, né en 1784 à Mons, qu'il quitta pour habiter longtemps Paris, et y créait donc en 1827 cette revue musicale dont il s'occupa presque seul pendant 7 ans afin de rendre compte de la vie musicale parisienne. Il s'arrêta tout de même au début des années 30 pour aller diriger le tout nouveau conservatoire de Bruxelles à la demande de la toute nouvelle Belgique indépendante, un poste important donc, qu'il occupera jusqu'à sa mort en 1871. Bref, c'est un sacré bonhomme dont on va feuilleter la revue musicale, numéro du 5 février 1831 au 28 janvier 1832. Vous allez voir qu'il se passe beaucoup de choses très importantes, dont la création de ce qui suit. La voix de Cesare Siepi dans cet extrait de Robert le Diable de Giacomo Meyerbeer, créé à Paris en 1831, et dont François-Joseph Fétis, dans sa revue musicale, rend ainsi compte. C'était un événement attendu depuis longtemps avec une vive impatience par les artistes et les amateurs de musique. Le sujet que Meyerbeer a choisi, les conditions du drame lyrique français, tout lui faisait une loi de s'ouvrir de nouvelles routes et de produire une composition d'un ordre élevé. Il n'a point trompé l'attente de ses amis, disons mieux, il l'a surpassé. La partition de Robert le Diable n'est pas seulement le chef-d'œuvre de Meyerbeer, c'est une production remarquable dans l'histoire de l'art. Remplie d'effets nouveaux et trouvés, elle agrandit le domaine de la musique colorée. L'empressement du public à voir et à entendre cet opéra se soutiendra longtemps, car le sujet a de l'intérêt, le spectacle est magnifique, la musique, comme tout ce qui est réellement beau, ne peut que gagner à être entendue souvent. Enfin, l'exécution offre une perfection d'ensemble et de détails qui complète le plaisir de l'oreille et des yeux.
C'est moi qui vous appelle.
Anna Mofo dans la cavatine d'Isabelle, l'extrait de Robert le Diable de Giacomo Meyerbeer, grand succès, grand événement de cette année 1831.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Fétis, dans sa revue musicale, ne parle bien sûr pas seulement des premières, celle de Robert le Diable dont on vient de parler, ou encore celle de Zampa, de Hérold au théâtre de l'Opéra Comique. Voici qu'il évoque ici la reprise de Don Juan, je dis bien Don Juan, de Mozart, au théâtre italien. Voici ces termes. Il est un petit nombre de productions de l'esprit humain dont les beautés sont telles qu'elles représentent à elles seules toute une époque de perfectionnement. Ainsi, toute l'architecture grecque réside dans le Parthénon, la peinture italienne est résumée dans le Vatican, et la musique dramatique moderne est tout entière dans le Don Juan de Mozart. La phrase pourra paraître un peu exagérée, mais faut pas oublier qu'à cette époque-là, Mozart est encore relativement peu connu du grand public et qu'on commence à peine à jouer ses opéras. Il s'agit donc pour lui de dire à ses lecteurs, avec bien sûr toute l'exagération romantique qui peut être la sienne, Don Giovanni est un chef-d'œuvre, allez le voir. Mi dirai di sì, vedi non è lontano, partiam ben mio da qui.
Vorrei e non vorrei, mi trema un poco il cuore, felice per sé. Burlarmi ancora, può burlarmi ancora.
Vieni, mio bel diletto.
Mi fa pietà, ma se tu,
io piangerò tua sorte.
Presto non son più forte, non son più forte, non son.
Vieni, vieni, baci da
mano. Vorrei e non vorrei,
ma mi dirai di sì.
E trema un poco il cuore.
Porti a me il mio da qui.
L'un des plus célèbres duos de toute l'histoire, « Donne-moi ta main », elle lui dira un peu plus tard « Prends la mienne », c'était la Cidarem la mano, chantée par Cecilia Bartoli et Brin Terfel. Dans son compte-rendu de cette reprise de Don Juan de Mozart au théâtre italien, Fétis, évidemment, parle de la distribution où l'on retrouve quelques-uns des grands noms de l'époque, Mademoiselle Sontag, Bordoni, Zucchelli, qui reprend le rôle de Don Juan de Manuel Garcia, et puis la fille de ce dernier, Maria Malibran, qui chante Zerline. Alors, faut rappeler qu'à cette époque, Malibran est la grande star internationale. Elle vient de s'installer justement au début des années 30 à Paris. Elle mourra quelques années après, mais là, elle est vraiment au sommet, et Fétis nous en parle en ces termes. Au milieu de sa gaieté habituelle, vous remarquez dans Madame Malibran une fermeté de caractère, une vivacité d'imagination, une mobilité de physionomie qui la rend propre à peindre les passions les plus violentes et en même temps les plus variées. Des octaves d'une justesse étonnante, des traits de vocalisation les plus difficiles, des phrases du meilleur goût, des sons attaqués hardiment, éteints avec charme, du feu, de l'âme, toutes les qualités de la cantatrice supérieure se montrent à découvert. La salle de concert semble la tenir trop à l'étroit. C'est un conquérant dans un polygone. Elle ne voit autour d'elle qu'admirateurs, tandis qu'elle cherche la malédiction d'un père, les fureurs d'un amant, le glaive terrible de la justice pour y puiser ses émotions subites qui l'inspirent et qu'elle communique si vivement aux autres.
Thank you.
Comme en hommage à Maria Malibran, c'était Renata Scotto qu'on entendait ici dans Castadiva, extrait de Norma de Bellini, avec à ses côtés James Levine. Il n'y a pas seulement dans la revue musicale de François-Joseph Fétis que des comptes rendus de spectacles de très loin, on trouve aussi des annonces, des textes divers, à une époque et dans un contexte, il faut le rappeler, où la facture instrumentale est en pleine évolution, très innovante et pleine d'inventeurs qui cherchent des instruments nouveaux quasiment tous les jours. Tenez, je lis dans le numéro du 28 janvier 1832. Monsieur Dietz, l'un des facteurs de piano de Paris les plus en renom, a fait l'aéréphone, dont le son, qui imite merveilleusement celui du hautbois ou du cor anglais, se modifie au moyen de la pression plus ou moins forte de la pédale et acquiert ainsi une délicatesse d'expression que n'ont pas les instruments allemands. Ajoutez à cela qu'une forme très élégante fait de l'aéréphone un joli meuble de salon. Monsieur Panseron joue sur l'aéréphone la partie destinée au hautbois dans ses jolies romances et l'effet qu'il en tire tient vraiment du prodige. Monsieur Dietz se construit des aéréphones à 3 et à 4 octaves. Le prix des premiers est de 450 francs, celui des seconds de 550 francs. Le deuxième nocturne de Frédéric Chopin, joué par Alain Planès sur un piano Pleyel, pour rappeler les évolutions de la facture instrumentale dans ces années 30, pour rappeler également que Frédéric Chopin, en 1831, est déjà à Paris, même si, évidemment, très jeune, sa présence y est des plus discrètes. Alors, je ne vous ai pas encore parlé de l'exemplaire que nous lisons aujourd'hui de cette revue musicale de Fétis. Je l'ai acheté il y a 7-8 ans. Ah, ça, j'en suis vraiment heureux et fier, chez un brocanteur au prix de 30 euros. C'est un exemplaire relié, en réalité, le tome 9, cinquième année de cette revue musicale. La reliure, elle est un peu ancienne maintenant. Enfin, je l'aime. Vous savez, c'est le genre de choses. Vous savez que c'est très vieux, c'est vétuste, ça tombe quasiment en lambeaux. Vous n'avez pas envie de les changer pour autant. Puis, il y a ce papier qui est absolument incroyable. C'est pas du papier de grande qualité, hein. On voit la page de derrière, sur celle du devant, hein. Enfin, j'adore ça, quoi. Ça fait une impression entre les doigts, sur la pulpe des doigts même, qui est tellement jouissive. Enfin, ça donne plaisir à lire ces choses-là. On y trouve, je vous le disais tout à l'heure, tout un tas d'annonces et d'avis, parfois assez surprenants dans la revue musicale. Je cite un avis, typique de l'époque. Un monsieur et une dame, sans enfants, s'occupant de musique, désirent près d'eux une demoiselle forte pianiste de 18 à 25 ans, s'adresser pour de plus amples renseignements à leur domicile, rue de la Paix, de 2 à 4 heures seulement. Le concierge indiquera.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Allez, on va poursuivre avec l'une des autres grandes figures de cette période, c'est Niccolo Paganini. L'incomparable Julia Fischer dans le dixième caprice de Paganini. Paganini qui visite en 1831 Paris pour la première fois. Ça fait 15 ans au moins qu'il joue un peu partout en Europe. Et bien pour la première fois, on peut l'admirer à l'Académie Royale de Musique. Fétis y est, il est un peu mitigé d'ailleurs, hein, dans son compte-rendu très long d'ailleurs, dans la revue musicale. J'en retiens juste une phrase. L'art de Paganini est un art à part qui est né et qui mourra avec lui. Mais plus intéressant, on trouve dans sa revue musicale aussi, je cite, une notice physiologique sur le célèbre violoniste Niccolo Paganini signée par le docteur Benatti. Et c'est passionnant parce qu'à l'époque, Paganini était une personnalité tellement hors du commun que certains disaient qu'il avait affaire avec le diable, d'autres plus rationnels disaient qu'il y avait en lui une forme de folie susceptible d'être analysée par la médecine. Or c'est drôle parce que le docteur Benatti en question, en réalité dans cette notice destinée à être lue à rien moins que l'Académie des sciences de l'Institut, montre à Paganini tout ce qu'il y a de plus normal. On sent même qu'il a de l'amitié pour lui, je le cite. On a dit à tort que l'expression de la douleur physique donnait aux traits de Paganini un caractère sauvage de mélancolie qui partait du chagrin de vivre. J'avoue que la fréquentation du violoniste ne m'a jamais donné une semblable idée de son caractère. Je l'ai toujours vu gai, spirituel, rieur même avec ses amis. Quant à la délicatesse musicale de Louis de Paganini, elle surpasse tout ce qu'on saurait imaginer. La musique, littéralement, le pénètre. La Campanella qui referme en rondeau le deuxième concerto pour violon de Niccolo Paganini, Ivry Gitlis en soliste à la baguette Stanislav Skrobachevski.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
On a de jolies petites surprises dans cette revue musicale. Par exemple, 4 ans après la mort du maître, la création française de la 9e symphonie de Beethoven. C'est le numéro du 2 avril 1831 qui nous en rend compte. On apprend que c'est le 5e concert de la saison du conservatoire et donné donc à l'occasion. On dit pas 9e symphonie, mais symphonie avec cœur de Beethoven. Et ce qui est important, c'est que ça nous montre bien que la mythologie beethovenienne est en train de naître là, avec l'idée de la surdité indissociable de la modernité chez Beethoven. Je cite Fétis. La solitude dans laquelle il vivait et l'accident qui, en le privant de Louis, l'avait en quelque sorte séparé du monde, avait augmenté l'indépendance de ses idées et de sa volonté. En revanche, on peut être surpris de la manière dont Fétis parle du scherzo qu'il décrit comme, je cite, « un badinage léger, charmant, où l'attention ne peut se reposer un seul instant, continuellement excitée qu'elle est par une multitude de traits inattendus, de surprises, de modulations et d'effets délicieux. » D'effets délicieux dans le scherzo, faut voir. Le scherzo de la 9e symphonie de Beethoven, Herbert von Karajan et l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Ainsi s'achève cette émission qui était consacrée aujourd'hui à la revue musicale de François-Joseph Fétis. Toutes les informations à retrouver sur notre site internet en passant par francemusique.fr. Merci à Flora Sternadel et Max James. Je vous retrouve demain avec Aldo Cicolini. Et à 16h, vous avez rendez-vous avec Marcel Quilleverré.
À réécouter sur francemusique.fr.